les eaux fleurissent. Ris, entrez, la vie est un délice. Ris, bambelle d'enfant, regard complice.
Les éclats de lyre. Une fête du livre jeunesse qui aura lieu les 17 et 18 mai au Vigan. Mais c'est aussi une émission de radio.
Les éclats de lire.
Pour mieux connaître la littérature jeunesse et ses acteurs.
Quel enfant étiez-vous ?
Le troisième de ma famille.
Quel livre pourriez-vous relire 100 fois ?
L'île au trésor et Martin Eden.
Quel livre vous a bouleversé ?
La petite fille aux allumettes.
Quel livre auriez-vous voulu écrire ou illustrer vous-même ?
L'ogresse en pleurs aux éditions Milan.
Parmi les autres êtres vivants, qu'auriez-vous aimé être ?
Une éponge.
Je suis...
Henri Meunier.
Bonjour Henri Meunier.
Bonjour.
Alors aujourd'hui avec toi, j'avais envie qu'on parle un petit peu, entre autres choses, de cette très belle collaboration que tu as signée avec Régis Lejon il y a pas si longtemps que ça. On en parlera d'autres après, d'autres collaborations. Mais je pense à l'album Le Berger et l'Assassin. Qui a été publié chez Little Urban et qui met en scène un berger, un assassin et la montagne aussi comme troisième personnage très présent.
Oui, absolument.
Est-ce que tu peux parler un peu de la place de la montagne dans cet album ?
Eh bien, la montagne, d'une certaine manière, c'est un peu le juge de paix, c'est celui qui va réussir à trancher ou à aider ces deux hommes qui sont... en équilibre instable, entre le bien et le mal, chacun à sa façon. Et la montagne va les aider à basculer dans un sens ou dans l'autre. Mais voilà, donc moi je lui vois un rôle de juge à la fois parfaitement muet et en même temps surpuissant. Je ne sais pas si ça répond à votre question.
Oui, et par rapport au personnage de l'assassin, c'est pas un peu surprenant de trouver ça dans un album pour les enfants ?
Alors c'est pas un album pour les enfants,
ah.
C'est un album pour les ados et les adultes, et c'est un souhait qu'on a depuis très longtemps avec Régis. Moi, dès que j'ai commencé à écrire des albums, j'ai eu envie d'en écrire pour les adultes aussi, puisque j'en lisais pour mon plaisir d'adulte, mais c'est pas une chose si simple que cela. À faire accepter aux éditeurs, donc ça a mis presque 20 ans avant qu'on publie un premier album qui s'appelait Cœur de bois et qui était lui aussi tout à fait officiellement sur le catalogue pour ados et adultes. Et c'est le cas aussi du Berger et l'Assassin.
D'accord, alors justement je voulais parler de ça, de l'âge du lecteur et comment est-ce qu'on peut écrire une histoire en imaginant son âge. Si tu viens de répondre à cette question, donc oui, toi, tu as déjà un petit aperçu et c'est pas seulement l'éditeur qui va choisir la catégorie d'âge.
Non, alors quelquefois, les catégories marquées derrière, s'ils sont choisies par les éditeurs, hein, pour être franc. Mais moi, je sais qu'il y a des choses dont j'ai envie de parler aux enfants et d'autres choses dont j'ai pas envie de parler aux enfants. Donc ça, c'est un premier critère. Et quand ce sont des choses que j'ai envie de raconter, mais pas aux enfants, j'en fais des livres adultes, soit des bandes dessinées, soit comme là, des albums, enfin aux petits-enfants, hein, j'entends, parce que les ados, je les considère encore comme des enfants, malgré tout. Et donc ça, c'est une chose. Et puis, je pense qu'il y a des thèmes qui n'intéressent pas particulièrement les enfants en dessous d'un certain âge. Quand les histoires, comme c'est le cas du Berger et l'Assassin et de Cœur de bois, ont quand même un fort substrat sinon psychologiques, en tout cas très intimes, et sur des questions purement adultes, je pense que ça intéresse pas à mon fils de 8 ans, par exemple.
Et je crois que tu travailles aussi beaucoup sur le texte.
Oui, bien sûr. Bah, ça, c'est mon travail, si j'ose dire. Donc, j'essaie de le faire de mon mieux.
Oui, mais parfois, ça peut venir de manière naturelle ou alors, comme tu l'as peut-être déjà dit, passer plusieurs années sur un album.
Ah, ça a pu m'arriver, absolument. Ouais. Il y a des albums sur lesquels j'ai bloqué parfois. Je ne trouvais pas la solution pour qu'ils correspondent exactement à ce qu'il me semblait pouvoir dire profondément. Et donc, dans ces cas-là, je cherche, puisque de toute façon, tant qu'un livre n'est pas publié, personne ne sait qu'il existe, à part moi, en vrai. Donc, j'ai effectivement un certain nombre de textes dans mon ordinateur qui me résistent, parce que je les trouve incomplets, parce que je les trouve trop bavards, parce que je les trouve pas assez joliment écrits, du point de vue du rythme. Et dans ces cas-là, ils restent dans mon ordinateur jusqu'à ce que j'ai trouvé la solution à ce qui pose problème pour moi.
Donc de temps en temps, tu les repioches, tu les retravailles.
Voilà. Tous les 4 mois, 3-4 mois, je les rouvre et je regarde si j'ai la solution. Et puis il y en a qui s'épuisent juste. Voilà, il y a des textes où finalement je me suis dit je n'en ferai pas de livre parce que ils étaient très proches de moi quand je les ai commencés il y a 10 ans et puis ils le sont moins aujourd'hui.
Et comment tu ajoutes de la poésie dans tes mots, parce qu'il y en a beaucoup aussi dans ces albums-là?
Alors, je cherche pas du tout, moi, mais je sais qu'on m'en parle souvent, et c'est pas quelque chose que je recherche, la poésie. Enfin, ça serait malhonnête de dire que j'en lis beaucoup, j'en ai beaucoup lu, j'en lis un peu moins depuis une dizaine d'années, mais j'ai beaucoup lu de poésie, j'adore ça. Mais pour moi, la poésie se passe vraiment de l'image. Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est précisément le rapport texte-image. Et donc je cherche pas à faire des phrases poétiques, je cherche à faire des phrases dont les sons s'accordent au sens. Et pour beaucoup de gens, cette attention au son est pris comme une volonté poétique. Mais c'est pas ma volonté première. Moi, c'est vraiment un souci d'écriture et ce qui me passionne, c'est le rapport texte-image. Donc c'est ça qui me travaille et pas la poésie.
Et tu relis tes textes à voix haute ?
Toujours. Les textes d'albums, en tout cas. Hein. Quand j'écris des bandes dessinées pour adultes, je le fais pas forcément. Mais les albums sont généralement lus à voix haute, ouais, par un médiateur, un instituteur, un parent, un bibliothécaire ou une bibliothécaire. Et donc, ça, c'est important de le lire à voix haute. Et puis, comme justement, les sons et la musicalité du texte sont vraiment importants pour moi, c'est important de lire à voix haute parce que dans sa tête, on triche avec la musique. À voix haute, c'est beaucoup plus difficile de tricher.
Et donc, tu disais que l'image avait une grande importance pour toi. Est-ce que ça veut dire que tu travailles, par exemple, pour Le Berger et l'Assassin, avec Régis Lejon et l'éditeur pour mettre tel texte sur telle illustration, sur telle planche, sur le chemin de fer, etc. Ou est-ce que vous faites des allers-retours entre vous deux également pour travailler ce rapport texte-image?
Alors moi, quand j'envoie le texte à Régis, il est découpé. Hein. Je crois que là, c'était en 18 entités narratives, donc 18 double pages sur lesquelles il va mettre une image. Et donc ça, oui, je le travaille, moi, en amont. Mmh. Le tourne-page est drôlement important dans les albums. Le moment où on tourne la page et donc le moment où on prend un temps. Donc ça, ça fait partie de mon travail d'écriture. Et après, donc quand Régis le reçoit, c'est déjà pensé. Et évidemment, moi, j'ai pensé à une image pour chaque petit paragraphe. Mais cette image, en fonction de mes collaborateurs, soit je la décris, soit je ne la décris pas. Ça dépend de ce qu'ils veulent et de la manière dont ils aiment travailler. Avec Régis, je ne décris pas l'image que j'ai en tête parce que je sais qu'il veut pouvoir me proposer la sienne sans connaître celle que j'avais imaginée. Ouais. Et donc à partir de et puis il lui arrive, évidemment, on discute, hein, on peut rebouger mon chemin de fer et mon découpage. D'ailleurs, ça a été le cas dans Le Berger et l'Assassin. Il y a une double page dont on a modifié le texte en ramenant un petit bout de ce que j'avais pensé à la page d'avant. Donc ça, on en discute ensemble, mais sur le cas du Berger, l'Assassin et des livres qu'on fait avec Régis, c'est moi qui lui envoie un texte découpé très précis et quasi définitif, et lui qui me propose ses images. Et une fois qu'on a les images et le texte quasi définitif, on essaye de faire de la dentelle.
Et justement, dans cet album Le Berger et l'Assassin, il y a une particularité, c'est que les seules illustrations représentent la montagne et non pas les deux personnages. Est-ce que ça, c'était prévu ou ça a été une découverte pour toi quand tu as vu ces illustrations ?
Ah non, on en parle avant que Régis commence à dessiner. Et il se trouve que c'était amusant parce que moi j'avais...
C'était sa demande de pouvoir illustrer la montagne.
Pardon ?
À la base, cet album, c'était sur le souhait de Régis Lejean de pouvoir illustrer la montagne. C'est ce qu'il a expliqué à la fin du livre.
Absolument, oui. Ouais. Il m'avait demandé une histoire qui lui permettrait de dessiner la montagne, ce qu'il n'avait jamais eu de plaisir de faire alors que c'est son lieu d'enfance. Très important pour lui. Mais pour répondre à votre question... précisément, en fait, moi j'avais prévu qu'on ne verrait pas les deux personnages, le berger et l'assassin, qui ne seraient pas représentés jusqu'à la fin. Et je ne l'ai pas dit à Régis. Mais j'avais pas du tout prévu qu'on ne verrait que la montagne. Moi j'avais prévu qu'on verrait des gros plans de la main, par exemple, qui tient le broc et le fromage, qui soigne le berger, plutôt des instantanés comme ça. Effectivement quelques vues de montagne. Mais c'est Régis qui m'a appelé quand il réfléchissait au texte en me disant « Écoute, j'ai une proposition à te faire, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je ne veux pas représenter les personnages, je veux représenter que la montagne. » Et c'était en concordance parfaite avec ce que j'avais en tête, mais c'était bien plus malin. Donc moi, je n'avais pas pensé à ça, mais je lui ai dit « C'est parfait. » Voilà. Il m'a dit qu'il voulait essayer de représenter de façon subjective ce que voyaient nos personnages, en fait.
D'accord.
Au moment où se passe l'action.
D'accord, merci beaucoup. C'était donc Le Berger et l'Assassin chez Little Urban. Et maintenant, est-ce qu'on peut parler un petit peu de Cœur de bois ?
Avec plaisir.
C'est toujours Régis Lejean qui l'illustre, mais c'est publié aux éditions Notary. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à parler de cet album. Est-ce que vous vous arrivez davantage ?
Eh bien, peut-être un petit peu.
présenter aux auditeurs qui ne le connaissent pas.
Oui, c'est un livre qui n'est pas sur un sujet simple, non. C'est un livre qui traite de la résilience. Et donc de
pardon, il y a eu un grasouillis du son, est-ce que vous pouvez répéter ?
Oui, c'est un livre où j'aborde la question de la résilience, et donc comment on se reconstruit, ou on tente de se reconstruire, ou on tente de renaître après avoir été dévoré. Ce qui est évidemment un sujet abyssal et sur lequel je n'ai aucune réponse personnellement. Mais par contre, ce sont des questions qui me travaillent. Et je voulais le traiter sous la forme d'un conte. Et donc, la question que je me posais, c'était, pour le dire de façon un peu simple ou brutale, puisque le conte, c'est toujours une histoire qui tend à l'absolu, quelle serait une résilience absolue ? Et c'était à la suite de témoignages de survivants du génocide du Rwanda que j'ai commencé à réfléchir à cette histoire-là, même si ça ne parle pas du génocide, mais plutôt d'une femme, d'une petite fille qui a été violée, hein, puisque je m'appuie sur le petit chaperon en rouge. Et voilà, et je me suis dit, est-ce que, puisque c'était l'abîme dans lequel m'avait renvoyé un survivant Tutsi qui parlait de ses bourreaux ou tout, est-ce qu'on peut... réussir à un jour aller jusqu'à aimer ses bourreaux. Ce que je ne crois pas, mais voilà de quoi ça parle.
Et donc, encore une fois, un album qui est à destination des ados et adultes. Vous avez des retours des ados sur ces albums-là ?
On a eu plein de retours sur ce livre-là, des retours très touchants, parce que maintenant, il a quelques temps, je pense qu'il a 4 ans.
Ah, peut-être et plus donc, même, oui.
Ouais, donc on a eu beaucoup de retours, et souvent, ça nous amène, peut-être que Régis n'a pas les mêmes retours que moi, je sais pas si on fait les mêmes retours à l'illustrateur et à l'auteur, mais moi, j'ai eu beaucoup de discussions de femmes qui avaient été victimes de violences autour de cet album, hein, pour être tout à fait honnête.
Mmh. Ouais, l'album a été publié en 2016.
Mmh. Ah oui, donc ça fait nettement plus de...
Déjà.
Voilà. Donc oui, j'ai eu des échanges plutôt avec des adultes qu'avec des ados sur ces questions, pour être tout à fait franc.
De manière générale, c'est assez dur d'avoir des échanges avec des ados. Donc en plus, sur un sujet si sensible... Ça peut se comprendre.
Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class. Ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no no love, ain't got no mind. I ain't got no country, ain't got no schooling, ain't got no friends, ain't got no nothing, ain't got no water, ain't got no air, ain't got no smokes, ain't got no ticket, ain't got no life. I've got
Nina Simone, moi, c'est ma chanteuse préférée. Sa voix me bouleverse. Et son combat, évidemment, pour l'égalité des femmes et pour l'égalité des Noirs et des Blancs me bouleverse tout autant. Et ce morceau-là, je l'adore. Moi, quand j'ai pas le moral, c'est celui que j'écoute. Il me redonne de la force. Ou c'est une sorte d'inventaire de ce qu'elle est et de ce qu'elle n'est pas. Très simple, très direct, et que moi je trouve bouleversant et qui me donne beaucoup de force quand je l'écoute.
On va à présent parler de cette aventure extraordinaire de la princesse Gaïa. Vous avez fait, vous aussi, partie des 9 auteurs et autrices qui ont écrit Une vie de la princesse Gaïa. Donc c'est l'ouvrage Les 9 vies extraordinaires de la princesse Gaïa. J'ai pas du tout l'impression de me répéter. C'est un projet mené par Régis Lejoux. On en a déjà un petit peu parlé dans cette émission cette année. Publié chez Little Urban. Et vous signez la dernière histoire, le dernier conte de Gaïa.
Absolument. Tous mes camarades ont eu le droit d'avoir une princesse ou un personnage qui aurait une chance, une seconde chance. Et moi, j'ai eu le redoutable privilège à la fois de clore le livre, mais aussi d'achever Gaïa, puisque c'était sa dernière vie et qu'elle ne renaîtra pas après l'histoire que j'ai écrite moi.
C'était beaucoup de pression d'écrire cette histoire ?
C'était pas mal de pression, alors pas vis-à-vis de la dernière vie de Gaïa, parce que c'est un personnage de papier et c'est comme ça, mais j'ai pas de soucis à tuer de personnages de papier. Mais en revanche, c'était pas mal de pression vis-à-vis de mes camarades, auteurs et évidemment Régis, illustrateurs, de me dire que le livre allait s'achever sur mon texte et que si j'arrivais à rien de bon, je risquais de mettre en péril leur texte à eux. Donc oui, j'y suis pas allé totalement détendu.
Et finalement, cette dernière histoire prend la forme d'une conversation avec la mort.
Oui, alors c'est amusant parce que moi j'étais, je ne sais pas si quelqu'un vous a déjà raconté, si du coup c'est en répétition comment s'est passé le projet, mais Régis Lejon, qui est à l'initiative de ce projet, qui a été vraiment le chef d'orchestre, nous a proposé à tous une époque, un pays et une fonction pour notre Gaïa. Et moi il m'a dit, ta Gaïa elle est au Mexique au 21e siècle, c'est une sorcière. Elle va mourir là. C'est l'instant de sa mort. Et moi, j'étais persuadé qu'il m'avait demandé d'écrire un dialogue entre la mort et cette vieille femme digne en fin de vie. Et en fait, il semble que pas du tout, ce soit moi qui l'ai choisi et qui ne l'avait pas imposé. Mais j'ai cru que c'était ça qu'on me demandait, donc c'est ce que j'ai essayé de faire.
Moi, c'est très bien aussi. Et il y a du coup, des recherches qui ont été faites peut-être sur le Mexique, sur le monde un peu des esprits chez les populations autochtones, ou alors vous connaissiez déjà ça sur le bout des doigts, parce que c'est assez pointu quand même.
Non, j'y connaissais rien.
Rien du tout.
Rien du tout. Régis m'a aiguillé au début, il m'a dit qu'il y avait les livres de Castaneda qui pourraient me renseigner sur la question, et puis après j'en ai lu d'autres. Non seulement je ne connaissais rien, mais en plus c'est assez loin de moi. Et c'est probablement tout à fait volontaire de la part de mon camarade de me mettre assez loin de moi pour pas que je tombe dans des choses que je savais déjà faire. Je suis pas très porté sur les questions spirituelles, la sorcellerie, l'au-delà. Et donc c'est ça qui m'a demandé d'aller explorer. Donc j'ai beaucoup lu. Mais en l'occurrence, moi, ça fait partie des choses que j'aime beaucoup faire avant d'écrire. Ça ne se voit pas forcément, mais souvent je lis beaucoup de livres autour du sujet que j'ai envie de traiter. Donc ça a été la même chose pour Le berger et l'assassin. J'ai dû lire.
Oui, on s'en rend compte quand on voit un peu le champ lexical du berger, en fait, avec l'agnelage, les gerles, égrener le lait, etc. C'est un champ lexical assez pointu.
Voilà, donc j'ai une dizaine de livres sur la montagne et sur les bergers avant de commencer à écrire. Et j'ai lu pas mal de livres sur les Yaquis et puis 3 ou 4 de Castaneda qui parlent plus précisément des questions spirituelles et de la sorcellerie.
Et après, c'est assez facile de condenser toutes ces nouvelles connaissances apprises dans un texte très court. Comment on fait pour égrener justement toutes ces connaissances ?
Alors, j'essaye pas de les égrener, en fait. Si j'aime lire beaucoup de choses, c'est pour vraiment me mettre en immersion. Et après, je referme tous les livres, j'y pense plus et j'écris. Et ressortent les choses probablement qui m'ont marqué ou qui me sont utiles pour mon récit. Après, dans le cas précis, là, j'ai été vérifier des détails, par exemple, dans ce que les sorciers Yaki appellent les alliés, qui sont tous liés à des drogues plus ou moins hallucinogènes. Certains sont féminins, d'autres sont masculins. Enfin, ça, je l'avais plus en tête quand j'ai écrit, j'ai été vérifier après, si l'allié était féminin ou masculin pour telle plante. Mais voilà, j'ai pas pris de notes ou j'avais pas mes petits résumés de précis de sorcellerie Yaki sous les yeux, quoi.
D'accord. Bien, merci beaucoup Henri Meunier.
Je vous en prie, merci à vous.
Et au plaisir de se revoir au mois de mai au Vigan pour les éclats de lire.
Avec plaisir, merci beaucoup.
Les éclats de lire, une émission de radio. Le troisième mercredi du mois à 15h30, rediffusé le dimanche qui suit à 11h.